Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, oui, c'est l'émission de contes de Radio CFM, des histoires, des légendes. La semaine dernière, si vous vous rappelez, si vous étiez à l'écoute, on avait des contes sur les arbres. Et aujourd'hui encore, parce que des arbres, d'abord, il y en a beaucoup. Des contes sur les arbres, il y en a beaucoup aussi, de tous les peuples de la Terre, donc... Oui, j'ai un petit livre qui s'appelle « Contes des sages gardiens de la terre » de Patrick Fishman aux éditions du Seuil, où je puise des histoires. La semaine dernière, c'était un arbre qui donnait une leçon à l'homme et à la femme, en l'occurrence, sur leur insatiable avidité. L'histoire des trois vœux, finalement, classique. Et là, on va partir chez les peuples premiers en Polynésie, où un homme choisit de devenir un arbre pour sauver les siens. Et si on a le temps, chez les Indiens des plaines, avec une pierre qui parle et qui enseigne aux hommes. Alors, à ce sujet, tiens, parce que des fois je reçois du courrier, un homme qui devient arbre, une pierre qui parle, et tout ce genre de choses magiques qui arrivent dans les histoires que racontent les peuples premiers, que les histoires que je raconte à cette antenne. La plupart des gens ont adopté l'idée dominante, comme quoi, bon, ok, c'est n'importe quoi ces trucs, c'est des superstitions, mais ça les rassure, car eux, ils n'ont pas la science pour les éclairer sur les réalités. Ils ont peur, donc ils s'inventent des solutions. Mais c'est charmant ces histoires, c'est si poétique, on veut bien les écouter. Eh oui, or cette vision, elle me fait penser exactement à la vision qu'on avait à l'époque coloniale. Arrogante, paternaliste... Et tout à fait sans réel fondement, car que savons-nous du monde, à part les infos de seconde main qu'on nous a fourguées depuis l'école? Je suis un corps de matière, perdu dans un univers de matière. Mais peut-être l'esprit existe en l'homme. Les peuples premiers, c'est-à-dire la majorité des peuples de la Terre, avaient plutôt tendance à voir les choses... inversé, dans l'autre sens. L'espace fondamental est esprit, grand esprit, au sein duquel tout se manifeste. Terre, eau, feu, air, pierre, plantes, animaux, hommes. Tous interdépendants, reliés, intelligents. Nous avons fait les arbres autant que les arbres nous ont fait. Nous pouvons parler aux pierres et les pierres peuvent nous parler. C'est ce qu'il y a de plus réel. Mais bien sûr, il faut faire un saut pour ça. Les mythes, les histoires, les contes ne sont pas là pour nous faire rêver et nous faire mieux supporter la dure réalité. Pas du tout. C'est l'inverse. Ils sont là, la poésie est là pour nous ramener à ce qui est et nous faire être de plein pied dans la grandiose réalité. Le déploiement sans fin du grand esprit. Voilà, donc tout ça pour dire que ce qu'on raconte, c'est pas juste des belles choses d'autrefois, oui, quand on n'avait pas la science pour se rassurer, non. Alors la semaine dernière, on a vu, on a parlé des arbres, je vous ai parlé de cette exposition « Nous, les arbres ». Où un certain nombre de scientifiques découvrent, et on peut dire que l'humanité redécouvre quelque part, c'est parce qu'on ne peut pas faire abstraction de tout ce qu'on a su avant, redécouvre que les arbres sont vivants, intelligents, qui communiquent, et sans doute peuvent-ils nous aider devant les menaces du dérèglement climatique, puisqu'ils absorbent du CO2, je ne sais pas si vous le saviez. Et pourtant, rien ne change. On déforeste, quand même. Mais, alors qu'est-ce qu'on peut y faire? Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Donc, vite fait, avant les histoires, ça va venir. On va faire, si vous voulez, un petit tour en Amazonie. On va mettre le Grand Orchestre des Animaux. Vous vous rappelez cette bande de Bernie Krause qui enregistre dans la nature? Voilà. Nous sommes... Allez, imaginez. Nous sommes dans un village indien de la forêt brésilienne. Tous les jours, eh bien, ils vont chasser, pêcher, cueillir dans la forêt. C'est véritablement leur mère, cette forêt. Elle les abrite, elle les nourrit, elle les soigne parce qu'il y a des remèdes. Elle les enivre parce qu'il y a tout un tas de plantes et elle leur chante sa chanson. Mais dans la ville, la plus proche, à quelques centaines de kilomètres, il y a ce qu'on appelle les braconniers du bois. Les braconniers du bois, ils ont des gros camions, quelques machines, et ils viennent la nuit et ils coupent du bois. Mais discretos, hein, sans se faire voir. Bon, d'abord les essences rares et puis aussi pleines de petits bois. Hein. Et toutes ces coupes-là font que les villages d'Indiens ont de moins en moins, ils expliquent, il y a de moins en moins d'arbres fruitiers autour de chez eux parce qu'ils viennent les couper. Donc il y a de moins en moins de gibier et ils sont en train de s'interroger sur leur survie possible dans cette forêt. Et du coup, comme ils ne sont pas contents du tout, ils ont créé des groupes de défense des arbres. Bon, ils sont armés avec des vieilles pétoires, ça met une tension terrible. Comme les braconniers, eux, sont armés beaucoup mieux, hein, bien sûr, eh bien, le résultat jusqu'à présent, c'est 4 morts du côté indien. Et c'est triste parce que la plupart du bois que coupent ces braconniers du bois, c'est du petit bois pour les clôtures du bétail que l'on met dans les zones déforestées du Brésil. Ce bétail qui est à 80% exporté pour les hamburgers dans nos pays développés. Oui. En fait, la guerre entre les Blancs et les Indiens n'est pas finie. Aujourd'hui même, quand vous mangez un hamburger, vous tuez un Indien. Alors, la déforestation, on ne peut rien y faire. L'arbre à pain. Quand les hommes en vinrent à manger la terre, qu'il ne resta plus à mâcher que des crabes au dos amer, des feuilles d'hibiscus et de minuscules graines flétries, l'île de Raiatea, en proie à la famine, fut inondée de larmes. Ici, les dieux avaient jeté des pierres à l'océan, pêcher des îles, semer leurs plumes magiques pour faire jaillir de terre herbes et bananiers. Mais ce temps d'abondance s'était enfui. Les Maoris n'avaient plus que des prières et des sacrifices pour rappeler à eux la fécondité. Rune Tahata, homme caverne, vivait à Ruamu avec Ruamu Arii, vraie pluie souveraine. Sur l'espace, le lieu sacré de Polynésie qu'on appelle le Marae. Ils élevaient 4 enfants, 3 garçons et une petite fille, affamés, tous les 4, et affaiblis. Un soir, quand parurent les étoiles que les Iliens appellent les Pléiades aux 7 pigeons blancs, allant sur les chemins montagneux pour manger des fougères, ils trouvèrent une caverne pour dormir. Mais au lieu de rester allongé parmi les siens, Ruatahata caressa le front de sa compagne, posa une ultime fois son regard aimant sur le doux visage, puis il chanta doucement. Ha, hey, 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 ha, hey dors maintenant et rêve de fruits. Couche-toi bien, sans te retourner. Je vais en quête ramener l'aube sucrée. Tu reverras mon corps et mes jambes, mes pieds qui aiment la terre. Tu passeras encore tes doigts fins dans mes longs doigts épais. Tu reverras ma tête et en son cœur ma langue. Et tandis qu'elle s'endormait, tournée sur le côté, qu'elle trouvait un peu de paix dans la poésie de son homme, il murmura encore « Cette tête que tu as chérie, tu la feras rôtir et tremper dans l'eau. Tu l'appelleras, et vous, mes petits, mes bien-aimés, mes petits affamés, vous mangerez ma peau après t'es battue, ma chair d'arbre qui vous nourrira. » Car dans son être, Ruatahata avait reçu la voix de l'arbre à pain, son parent, pas encore né, qui l'invitait à sortir de la grotte et à se changer en arbre d'abondance, à porter des ourous, les têtes fruits de l'arbre à pain, et à devenir lui, l'arbre à pain. Son descendant lui parla encore. « Je vais naître de toi. Ne crains pas la conversion. La joie entre par la fenêtre du chagrin. Viens, mon père, viens dehors. » Ruatahata sortit sous les étoiles pour faire naître l'arbre. Adieu, Ruamuhari. Déjà mes mains s'ouvrent comme des feuilles, et tandis que tu dors, je deviens tronc et branche, le porteur d'ourou providentiel. Lorsque Ruamuhari se leva le lendemain matin, le soleil était déjà haut, mais l'ombre du grand arbre apparut pendant la nuit, protégeait l'entrée de la grotte. Tout était comme Ruatahata lui avait dit. L'aube sucrée portait un doux rêve de fruits. Et elle comprit le sens de son dernier chant, passa ses doigts dans les branches épaisses, caressa la peau de cet homme devenu arbre, pleura tout en appelant ses petits. Elle cueillit la tête fruit, la fit rôtir, tremper, puis l'appela avec soin et partagea la pulpe délicieuse. Quand elle vit que d'autres têtes mûrissaient, elle fut soulagée. Non seulement il ne connaîtrait plus jamais la faim, mais le rond visage de Ruatahata se régénérerait. Ils demeurèrent dans cette vallée d'abondance qu'on appelle Tuahuru, le lieu de l'arbre à pain. Un jour, plus tard, les serviteurs du roi Nohohari, le souverain d'Uturoa, entrèrent dans la vallée prodigieuse pour pêcher des anguilles et des poissons Hohopu, pour attraper des chevrettes et rapporter ce que la terre donnait à l'ombre des grottes. Et c'est là qu'ils virent la peau des fruits glisser dans l'onde du torrent, qu'ils goûtèrent et remontèrent le courant vers la haute vallée. Et quand ils y arrivèrent, Ruamuhari cueillait. Devant leur surprise, elle révéla le nom de celui qui s'était offert. Alors, avec un respect sacré, les serviteurs portèrent l'arbre jusqu'à la côte, au marae de Ruamuhari, où ils le plantèrent. Pendant ce temps, les serviteurs du roi avaient chargé une pirogue de fruits mûrs et firent résonner leur triton des rivages de Tapatupanea à la baie d'Opoa, où la famille royale procédait au rituel saisonnier célébrant les premiers fruits. Le roi, Nohohari, goûta ce fruit, l'ourou, le fruit de l'arbre à pain. Après quoi, il ordonna qu'on le déplace et qu'on le replante à Opoa, en présence de la femme et des enfants. Une fois que la cérémonie fut terminée, la famille retourna tristement vers son marae. Ruamuhari ne se doutait pas que les racines qui étaient restées dans la terre y avaient déjà reconstitué tout un arbre. Et cet arbre portait déjà des ourous. Un vent léger agita les feuilles, un chuchotis traversa l'écorce. Passe encore tes doigts fins dans mes longs doigts épais. Qui peut dire qui est qui? Un lagon peu profond nous sépare, telle île en forme de feuille, telle autre en forme de fleur. Là, vous avez reconnu sans doute le chant de l'arbre à pain. Hein, oui, c'est un chant traditionnel maori. Ce qui veut dire oh, qu'il est bon cet arbre à pain, qu'il est sucré, qu'on se régale, mangez-en tous. Et oui, c'est un arbre important là-bas. Et voilà, donc, pour l'histoire indienne, on n'a pas vraiment le temps. Alors, je crois que... On va se dire au revoir. Tiens, on va envoyer le générique, tout simplement, bien comme il faut. Tiens, je l'entends. On a eu droit donc à cette belle histoire de l'arbre à pain, l'origine de l'arbre à pain. Hein. Donc voilà, c'est un homme qui s'est transformé pour nourrir sa famille. Le chant de l'arbre à pain. Et la semaine prochaine, on continuera avec des histoires d'arbres. C'était Marco, compte à rebours. Je vous dis ciao, à la semaine prochaine.